L'hebdo politique.
Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique sur Radio Sensation, l'hebdo politique numéro 7. Ce soir, je reçois Hervé Maurey, sénateur de l'Eure, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et élu régional.
Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.
Monsieur Maurey, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 56 ans, marié, papa de 3 filles. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit public, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Vous avez été dirigeant de société, de conseil en communication. Votre vie politique a commencé à Bonneville-Apteau, puis à Bernay. Vous avez été conseiller municipal avant d'en être le maire durant 3 mandats. Vous avez été conseiller aussi auprès d'Hervé Morin, alors ministre de la Défense, président de l'intercom de la CCBE. Vous siégez toujours au conseil de surveillance de la SNCF et vous avez entre autres présidé le syndicat mixte Heure Numérique dans lequel vous êtes toujours présent.
L'hebdo politique sur Sensation Normandie.
La première question, monsieur Maurey, pour détendre un peu l'atmosphère. Vous êtes le petit-fils de Max Maurey, auteur dramatique et fils de Marcel Maurey, directeur de théâtre des variétés. Est-ce que la vie d'artiste vous a tenté ou ça ne faisait pas très sérieux? Est-ce que ça vous a tenté un moment ou un autre?
Non, ça ne m'a jamais tenté. Je suis assez surpris et presque assez ému que vous me parliez de ces origines familiales dont on parle en général assez peu. C'est vrai que mon père était directeur de théâtre. Son père, Max Maurey, était directeur de théâtre aussi et auteur dramatique. Et donc, enfant, j'ai été un peu baigné dans ce monde-là. J'allais très souvent le dimanche avec mes petits camarades au théâtre. Et c'est vrai que c'est une partie de mon enfance. J'ai jamais envisagé d'embrasser cette carrière. Mais certains diront peut-être que quand on fait de la politique, c'est une forme de théâtre. Donc peut-être que ce bain familial m'a conduit à faire de la politique. Non, sérieusement, je ne le pense pas, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui a, encore une fois, été très présent dans mon enfance, toute la partie théâtre et culture.
Est-ce que votre famille a marqué l'histoire de Bernay ou pas du tout?
Non, ma famille n'a pas marqué l'histoire de Bernay. Je suis le premier bernayen. Je ne me revendique pas du tout des racines bernayens comme le font parfois un certain nombre d'hommes politiques qui se cherchent des racines. Voilà, je suis arrivé à Bernay dans ma vie et je m'y suis enraciné et Bernay est devenu ma ville et une partie de ma vie et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. On aura peut-être l'occasion, j'espère, d'en reparler. Bernay, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et c'est vrai que j'ai eu la chance d'exercer pendant 13 ans le mandat de maire, qui est un très beau mandat, qui m'a permis de m'investir à fond pour cette commune. Malheureusement, la loi sur le non-cumul des mandats m'a obligé à quitter mes fonctions. Je le regrette, hein. C'est vraiment un manque que j'ai de ne plus être maire, mais je suis toujours attaché à Bernay. J'essaie toujours de servir ma ville à travers mes mandats de conseiller régional et de sénateur.
La question de politique nationale, pour entrer dans le vif du sujet, il y a quelques semaines s'est tenu un grand raout de votre parti, de votre famille politique, des centristes, avec le lancement d'un grand mouvement de recomposition. Alors on ne sait pas si c'est Hervé Maurey qui est à l'initiative de cela. Est-ce que c'est une page qui se tourne pour votre famille? Est-ce que c'est un nouveau livre à écrire? On sait que vous n'êtes pas trop au fait ni obligé, en tout cas de la vie politique telle qu'on le conçoit. Vous êtes un petit peu loin de tout ça. Est-ce que vous participez en tout cas à ce changement? Vous avez envie de quoi?
Bah, c'est clair que l'élection d'Emmanuel Macron a créé une recomposition de la vie politique. On voit bien qu'un petit peu partout, il y a des éclatements, il y a des regroupements, et la famille centriste n'échappe pas à ce mouvement de recomposition. Donc effectivement, il y a des radicaux de gauche et de droite qui se sont réunis. Il y a Hervé Maurey qui a souhaité quitter l'UDI pour recréer autre chose. Il y a, on voit bien chez les Républicains aussi des mouvements qui se font. On a bien vu quand même que dans notre département, les deux principaux leaders des Républicains sont aujourd'hui en marche. Bref, on est dans une phase de recomposition politique. Je crois qu'elle n'est pas encore tout à fait terminée ni tout à fait stabilisée. Et c'est assez difficile, à mon avis, encore aujourd'hui, de savoir ce qu'elle va donner.
Ça aurait été envisageable que vous soyez en marche ou pas du tout?
Écoutez, aujourd'hui, je ne le suis pas. Que sera l'avenir ? C'est très difficile à dire, justement, dans cette phase de recomposition. Moi, si vous voulez, vous l'avez dit, j'ai jamais été un passionné de la vie des partis politiques. Je suis très intéressé, évidemment, par la vie politique. Je suis parlementaire, donc vous imaginez bien que la vie politique m'intéresse. En revanche, je n'ai jamais souhaité avoir des responsabilités dans un parti. Quand Jean-Louis Borloo a créé l'UDI, j'ai découvert que j'étais dans un organigramme avec des fonctions que j'ai tout de suite eu à cœur de transmettre à d'autres, parce qu'encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le travail que je fais, que ce soit au Sénat ou sur le terrain, mais l'organisation de la vie politique ne m'intéresse pas. En revanche, je suis, depuis que je suis sénateur, je siège au groupe de l'Union Centriste au Sénat. C'est un groupe dans lequel je me sens très bien, parce que c'est un groupe où on a toujours eu, ça date pas de l'ère Macron, où on a toujours eu la liberté de parole et la liberté de vote. Une époque où, quand je suis arrivé au Sénat, c'était la présidence Sarkozy, où mes collègues de l'UMP étaient obligés de voter comme on le leur disait, où ils étaient obligés de tenir une ligne, où certains me disaient « je suis d'accord avec toi, mais je ne vais pas pouvoir voter ce que j'aimerais voter ». Nous, au groupe centriste, et je l'ai prouvé quand j'étais dans la majorité de Nicolas Sarkozy, j'étais dans la majorité, mais je disais ce que j'avais envie de dire, et je votais comme j'avais envie de voter. Et donc, finalement, aujourd'hui, depuis que Emmanuel Macron est président, beaucoup de gens disent « ah bon, on va se déterminer au cas par cas ». C'est ce que je fais, mais je veux dire, ça ne change rien par rapport à ce que je faisais déjà. Donc par rapport à Emmanuel Macron, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, il y a des textes que je vote, il y a des textes que je ne voterai pas. C'est vraiment en fonction de ce qui me paraît être l'intérêt général.
Vous appelez pas de vos voeux, en tout cas, que le centre soit plus pesant dans la vie politique actuelle, au lieu d'être spectateur. On sait que le Modem, ça a été un coup dans l'eau, mais ça s'est plutôt mal passé. Est-ce que vous aimeriez, vous, que la politique gouvernementale, telle qu'elle soit, même pour les prochains gouvernements, elle soit faite avec les centristes ?
Écoutez, quand on appartient à une famille politique, on souhaite naturellement qu'elle ait le poids le plus important possible. Ce qui est un petit peu compliqué pour le centre aujourd'hui, d'abord, c'est qu'il se plaît à s'éparpiller, à s'éclater. On n'est déjà pas très fort, mais en plus, on s'éparpille. Et de surcroît, Emmanuel Macron a repris beaucoup de nos idées. Donc c'est très difficile d'avoir un propos vraiment audible et distinct du sien quand un certain nombre de nos idées, je pense notamment sur l'Europe, sont reprises par Emmanuel Macron. Voilà. Donc encore une fois, je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur la politique politicienne qui n'intéresse pas beaucoup les Françaises et les Français.
Ne cherchez pas leadership, en fait. Le parti en lui-même, pour l'instant, ne le cherche pas.
Bah écoutez, je crois que ce serait très honnêtement très présomptueux de chercher le leadership aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un Emmanuel Macron et un parti En Marche qui est largement dominant dans la vie politique. On a face à lui aujourd'hui les partis de la droite et du centre traditionnel sont quand même assez faibles. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui les principaux opposants d'Emmanuel Macron c'est Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen. Et justement tout le travail que nous avons collectivement à faire dans l'opposition républicaine, c'est-à-dire chez les Républicains et au centre, c'est à reconstruire quelque chose de crédible face à Emmanuel Macron. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je suis un opposant systématique d'Emmanuel Macron, mais je crois que dans une démocratie, il faut qu'il y ait une majorité, il faut qu'il y ait une opposition. Et si l'opposition à Emmanuel Macron, c'est uniquement le Front National et M. Mélenchon, c'est extrêmement préoccupant, parce que dans un mouvement de balancier, dans un mouvement de mécontentement qui pourrait à terme arriver, s'il n'y a pas une opposition crédible et que les Français se tournent vers les extrêmes, c'est la pire chose qui puisse arriver. Donc je crois qu'il faut une opposition crédible et républicaine face à Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas pour autant, parce qu'on est dans l'opposition, qu'il faut tirer à boulet rouge de manière systématique, bête et méchante.
Donc elle vous
c'est
semble...
en tout cas pas ma démarche.
D'accord. Elle vous semble crédible et républicaine, l'opposition que va mener Laurent Wauquiez, qui est le nouveau patron de la droite dite révolutionnaire, dite dure un peu, quoi.
Écoutez, Laurent Wauquiez vient de prendre ses fonctions. Ouais. On va voir comment les choses s'organisent. Je crois que c'est un petit peu tôt pour tirer des conclusions.
C'est pas votre tasse de thé, en tout cas.
Écoutez, si c'était ma tasse de thé, je serais chez les Républicains.
Tout à fait. D'ici le... quelques semaines, on va se projeter vers le printemps 2018, suite à la conformité, etc., de la loi. Vous avez été obligé un peu de vous séparer de votre femme, comme Nicole Duranton s'est séparée également de ses collaborateurs familiaux. C'était une décision difficile à prendre, ou qui vous paraissait logique ou pas ? Non, je connais la réponse, mais...
Vous connaissez la réponse parce que j'ai eu l'occasion de dire
vous expliquer là-dessus.
À maintes reprises que je trouve cette loi totalement démagogique et populiste. Pourquoi cette loi a été prise? On le sait tous. C'est parce qu'il y a eu des abus qui ont choqué, pour parler clairement et appeler un chat, c'est l'affaire Fillon où Madame Fillon a perçu des salaires absolument démentiels pour un travail qui n'était pas avéré. Bon. Et donc ça a choqué tout le monde fort légitimement. Et là, au lieu d'essayer de réglementer les choses pour éviter ce genre d'abus, on les interdit. C'est comme si dans un troupeau, vous avez une brebis galeuse, vous éradiquez tout le troupeau. Ouais. Je trouve ça absurde. Il suffisait de s'assurer que le travail confié à des membres de la famille était un travail réel. Parce que par ailleurs, ce qui était déjà fait, mais personne ne le sait, c'est que la rémunération au Sénat des emplois familiaux était plafonnée. Donc, moi, quand je disais que ma femme travaillait pour moi pour un salaire de 2000 euros par mois, ça choquait personne. Parce que tout le monde savait qu'elle travaillait pour moi. Et tout le monde jugeait que c'était un salaire qui n'avait rien de démesuré par rapport au travail qu'elle fait. Donc, effectivement, je regrette cette décision parce que on a des habitudes de travail. Voilà, et que ça remet en cause beaucoup de choses.
Est-ce que vous êtes comme certains sénateurs qui allaient user de ce stratagème de faire travailler soit votre épouse, votre fils ou votre fille pour un autre parlementaire?
Non, je ne...
Ça se fait actuellement.
Je ne me prêterai pas à des choses qui ne sont pas légales.
D'accord. Donc au printemps prochain, on peut citer son nom, Laurence Fanet fera autre chose?
Je ne sais pas si elle fera autre chose, parce que pour être très, très transparent avec vous, on a envie de continuer à travailler ensemble. Donc peut-être qu'elle continuera à faire la même chose, mais de manière bénévole.
D'accord. Enfin, vous avez été reconduit en octobre à la présidence de la commission d'aménagement du territoire et développement durable au Sénat. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche, tout ça? On peut dire que c'est la fiche spirituelle de l'ancienne Dattar ou pas du tout?
Non, vous savez, dans les assemblées parlementaires, l'Assemblée nationale ou le Sénat, il y a des commissions. Ça s'appelle des commissions permanentes. Elles sont en nombre réduit. Il y en a 7 dans chaque assemblée qui couvrent les grands champs de la vie politique. Je ne vais pas énumérer toutes ces commissions, ce serait un peu long. Celle que je préside, elle couvre donc l'aménagement du territoire et le développement durable. Mais ça inclut aussi tout ce qui est mobilité, infrastructure routière, autoroutière, le ferroviaire, l'aéroportuaire, les ports, l'écologie, enfin, c'est quelque chose de très large. La santé sous l'angle environnement, parce qu'il y a aussi une partie de la santé qui est à la commission des affaires sociales. Donc dès lors qu'il y a un texte législatif qui se rapporte à ces sujets, eh bien c'est nous qui examinons ce texte avant qu'il soit débattu dans l'hémicycle. Et depuis la réforme constitutionnelle de 2008, ce sont même les commissions qui réécrivent les textes qui viennent du gouvernement. Quand un projet de loi arrive, il est examiné par la commission qui peut le modifier avant qu'il ne vienne dans l'hémicycle.
D'accord.
Et puis au-delà de ce travail législatif, on a la possibilité de mettre en œuvre des missions d'information, des missions d'enquête pour creuser des sujets. Pour prendre un exemple, j'ai eu l'occasion de faire des rapports sur le sujet qui m'est cher, la démographie médicale, le numérique. Bon, on a aussi cette capacité à faire des rapports, à mettre en place des groupes de travail et des missions d'information pour aller au fond des sujets qui relèvent de la compétence de la commission que je préside.
La commission de l'aménagement du territoire a organisé une table ronde il y a quelques semaines sur le canal Seine Nord Europe en présence de Xavier Bertrand. En quoi c'est intéressant et en quoi ça peut interpeller le Normand? Parce qu'en fait, c'est assez vague tout cela. On y travaille sur ce canal depuis plusieurs dizaines d'années. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie de tous les jours?
Alors, c'est évidemment pas en tant que Normand que j'ai organisé cette table ronde, mais en tant que président de commission. Et c'est un projet qui relève des compétences de la commission, puisque comme je vous le disais, on est compétent sur tout ce qui est infrastructure, et notamment, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais notamment aussi le fluvial. Et là, on a un projet d'aménagement du territoire majeur, bien sûr pour la région des Hauts-de-France, mais aussi pour l'ensemble du pays, puisque c'est un projet qui doit permettre de relier par voie fluviale la région du nord de la France, à l'Europe du Nord et au reste du territoire français.
Est-ce que ça pourrait bénéficier au port du Havre?
Alors, il y a en l'état actuel des choses plutôt des inquiétudes de la part des Normands qui ont peur justement que ce canal soit de nature à défavoriser le port du Havre au profit des ports du nord de l'Europe. Donc il y a la nécessité de mettre un certain nombre de garanties et de permettre un certain nombre d'aménagements du port du Havre pour éviter que ce canal soit défavorable à la Normandie.
On va parler transport, TER et SNCF tout à l'heure, juste après cette petite coupure, puisqu'on passe à la deuxième partie de cette émission.
L'hebdo politique.
La suite de cet hebdo politique où je reçois le sénateur de l'Eure, Hervé Maurey. Nous parlions tout à l'heure du canal pour la partie nord de l'Europe. Pour la partie transport et SNCF aussi, vous avez travaillé sur un sujet qui a fait polémique, enfin dans certains univers, les trains d'équilibre de territoire, etc., ouverts à la concurrence, on parle de, sans doute janvier 2020 ou 2021, pour les TGV en tout cas. Au début, pour la concurrence, ça sera pour les transports de voyageurs. C'est un gros dossier que la ministre des Transports veut décanter un peu plus tard. Pourquoi ce projet de loi? Pourquoi vous y êtes attaché à cette concurrence ouverte de la SNCF? Est-ce que vous pensez que ça ne va pas assez vite?
Alors d'abord, c'est quelque chose qui est prévu par les textes européens, ce qu'on appelle dans le jargon de Bruxelles le quatrième paquet ferroviaire qui a été adopté en 2016, prévoit que pour les trains, ce qu'on appelle réglementés, c'est-à-dire les TER, les trains régionaux et les TET, cette ouverture à la concurrence doit s'effectuer en décembre 2019 et pour les trains commerciaux, dits commerciaux, c'est-à-dire les TGV, en janvier 2021. Donc ça, c'est une obligation fixée par le droit européen. Et pour qu'elle entre en application, il faut qu'il y ait un texte français. Et donc moi, j'ai travaillé un texte sur ce sujet parce que je pense d'abord qu'il faut que l'on prépare le plus en amont possible cette ouverture à la concurrence. Souvent, en France, on attend le dernier moment et du coup, les choses sont mal préparées, elles sont faites à la hâte. Et moi, je pense qu'il faut les anticiper. Et ensuite, je pense qu'il faut que la SNCF soit le plus rapidement possible ouverte à la concurrence. On voit bien aujourd'hui, tous les usagers vous le diront, que la SNCF, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de plus en plus cher, c'est un service de moins en moins satisfaisant, des retards qui ne cessent d'augmenter. Et je pense, pour avoir vu notamment ce que l'ouverture à la concurrence donne dans d'autres pays comme l'Allemagne, que l'ouverture à la concurrence doit permettre de secouer cette vieille dame qui est la SNCF. En Allemagne, l'ouverture à la concurrence a permis de développer l'activité du ferroviaire en général et de l'entreprise nationale en particulier. Je vous signale qu'il y a un très récent rapport de l'ARAFER, qui est l'autorité de régulation du ferroviaire, qui montre que dans tous les pays d'Europe, l'activité du ferroviaire a augmenté au cours des dernières années. Il n'y a qu'en France qu'elle a baissé. Ça montre bien qu'il y a un problème. Et je ne reviens pas sur ces pannes régulières d'un autre monde qui font que tout d'un coup, parce qu'il y a un fusible qui saute, il y a des dizaines de milliers de voyageurs qui sont pris en otage. C'est pas possible, c'est plus possible, et ça montre bien que la SNCF a besoin d'être challengée par une mise en concurrence. Et donc c'est l'objet de ce texte.
Il y a un gros chantier aussi sur la réfection des rails.
Tout à fait.
Ça, c'est pas forcément la SNCF qui doit prendre en compte cela. Est-ce que c'est la région ou...
Si vous voulez, sur la situation du réseau, on a un réseau qui est en très mauvais état. L'âge moyen du réseau est deux fois plus élevé qu'en Allemagne. On a des portions de réseau qui ont parfois entre 80 et 100 ans. J'ai bien dit entre 80 et 100 ans. Et donc, c'est ce qui explique très souvent des retards, parce que l'infrastructure est tellement abîmée qu'on est obligé de rouler moins vite. Un président de région me disait que dans sa région, dans certains cas, les vélos allaient plus vite que le rail. Je ne sais pas si c'était une image ou pas, mais enfin, ça montre bien une réalité. Et donc, il y a une nécessité de régénérer ce réseau rapidement. Et la situation, elle résulte de ce point de vue-là, pas tant de la SNCF que des gouvernements successifs qui ont voulu, à une époque, tout investir sur le TGV. Alors c'est vrai que c'est comme les travaux chez soi. On se dit toujours, la toiture, c'est pas très amusant de refaire la toiture. Mais il arrive un moment, si on refait pas la toiture, il pleut dans la maison et ça devient embêtant. Et bien, sur le ferroviaire, c'est ça. Pendant des années, on n'a pas entretenu l'infrastructure. Et aujourd'hui, on a une infrastructure qui est en très mauvais état. Et c'est presque un miracle qu'il n'y ait pas eu de plus d'accidents que celui qu'on a connu il y a quelques années à Brétigny.
On va changer de transport. On va être sur le transport du numérique. Au cours des deux ans et demi de votre présidence à Heure Numérique, grâce au soutien également renforcé du département, de la région, et puis peut-être de l'État, vous allez nous en dire un peu plus. Le dossier de la couverture numérique, en tout cas dans le département de l'Eure, a l'air d'avancer un peu plus vite que les bonnes paroles qu'on nous a sans doute laissé entendre il y a quelques mois ou quelques années, selon les élections. Le déploiement du THD est en cours. Est-ce que ça, c'est une réussite dont vous êtes fier? Est-ce qu'on peut encore aller plus loin, ou est-ce que ça bloque à certains endroits, et pourquoi ça bloque?
Écoutez, je suis assez fier du travail qu'on a fait au cours des deux dernières années. Alors, je ne suis plus président d'Heure Normandie Numérique, mais je suis encore président de la commission Travaux, ce qui me permet de suivre le programme que l'on a mis en œuvre. C'est vrai que par rapport à la situation que l'on a connue en arrivant en 2015, on a vraiment enclenché les choses. On a fixé un objectif beaucoup plus ambitieux que celui qui était fixé. Et surtout, chose très importante, on a réussi à faire en sorte que le déploiement, il concerne aussi les zones rurales. Parce que dans le projet tel qu'il avait été formaté avant que nous n'arrivions, il y avait un déséquilibre énorme entre les zones rurales qui auraient eu un taux de couverture autour de 30% et les zones urbaines qui auraient eu un taux de couverture autour de 90%. Là, on va être en 2020 sur un taux de couverture de 98% de la population. Donc en 2020, 98% de la population sera couverte. Et quand je dis 98%, c'est à peu près 98% sur tous les territoires. C'est-à-dire, c'est pas 80% dans certains et 100 ailleurs. Ce sera peut-être au pire 97, et entre 97 et 99 selon les territoires. Donc on va avoir un plan de couverture très ambitieux et avec une situation très favorable aux territoires ruraux. Alors aujourd'hui, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est pas de définir ce plan puisqu'il est défini, c'est pas d'obtenir les financements parce que vous l'avez dit, le département avec Sébastien Lecornu, la région avec Hervé Morin et l'État qui a suivi font qu'on a réussi à passer l'enveloppe qui était à l'époque de Destan de 133 millions, on l'a monté à plus de 170 millions, ce qui montre qu'il y a une vraie volonté politique, c'est de tenir le calendrier. Et pourquoi c'est difficile de tenir le calendrier ? Pour deux raisons. C'est que comme il y a une appétence très grande pour le déploiement de la fibre sur tout le territoire national, on commence à manquer de fibre, il y a un problème d'approvisionnement. Et ensuite, et je vais lancer un appel à votre micro, on manque de personnel qualifié pour déployer cette fibre. Et on a dû, avec le département et Pôle emploi, mettre en place des formations pour former du personnel pour déployer la fibre. Donc s'il y a des hommes et des femmes qui ont envie de déployer la fibre, eh bien, qu'ils contactent Heure Normandie Numérique. On recherche du monde.
C'est un nouveau métier, ça.
Oui, c'est un nouveau métier. Ça nécessite des formations. C'est pas très compliqué, mais ça nécessite des formations. Et c'est ce qui, aujourd'hui, pourrait conduire à ce qu'on ait des retards dans le déploiement. C'est ces deux problèmes, approvisionnement de la fibre et problème pour avoir du personnel qualifié et prêt à déployer la fibre.
Question plus politique départementale, même si vous ne critiquez pas pour le moment l'action du gouvernement Macron. Vous avez pourtant soutenu le mouvement de colère des maires à Évreux. Pourquoi vous...
Ça montre qu'il y a des aspects du gouvernement Macron qui ne me conviennent pas. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des choses que je soutenais, d'autres que je ne soutenais pas. Effectivement, il y a une vraie inquiétude des collectivités locales, une vraie inquiétude des maires. Cet été, on a quand même vu la suppression d'une grande partie des emplois aidés qui étaient quand même très précieux aux collectivités locales et à un certain nombre d'associations. On a vu disparaître la réserve parlementaire, ce qui a été une véritable bêtise. Là aussi, c'est vraiment... Comme pour les emplois familiaux, c'est de la démagogie et du populisme. Bref, on a vu un certain nombre de mauvais coups portés aux collectivités locales, dont je me désolidarise totalement. Et c'est pour ça que j'ai souhaité manifester mon soutien aux élus en participant à la manifestation Évreux. Mais il y a bien d'autres sujets sur lesquels je ne suis pas non plus d'accord avec Emmanuel Macron. Je pense notamment, si vous m'autorisez une petite parenthèse, au problème de la désertification médicale, où les mesures qui ont été prises par le gouvernement ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux.
J'allais y venir, enfin c'est une passerelle. Depuis 2013, Bernay tente désespérément de maintenir un médecin dans son centre municipal. Pourquoi on n'y arrive pas ?
Écoutez, moi j'ai créé cela effectivement en 2013, parce que je pensais que c'était une bonne idée, et ça a été effectivement une bonne idée dans la mesure où ça a marché, où ça a rendu un service, où ça a été quelque chose qui en plus était neutre budgétairement pour la ville. Le problème, c'est qu'on avait un médecin très bien qui est parti et qu'après on n'en a plus trouvé. Donc pourquoi ça marche pas ? Eh bien parce qu'il y a une pénurie de médecins au niveau national. Alors à un moment c'était plus facile d'en trouver des salariés, c'est pour ça que j'ai pu monter ce centre municipal de santé, et aujourd'hui c'est plus le cas. Et c'est pour ça que je savais pourtant pas que vous alliez me poser cette question. C'est pour ça que je dis que malheureusement, le gouvernement qui se veut le chantre de la nouvelle politique, eh bien là, il continue avec les vieilles recettes qu'on met en place depuis 25 ans et qui ont montré qu'elles ne fonctionnaient pas. Et je regrette sur ce point précis que le gouvernement d'Emmanuel Macron ne fasse pas preuve de plus de courage en mettant en place des mesures audacieuses, des mesures fortes qui sont aujourd'hui les seules à régler le problème. Et je le dis aujourd'hui solennellement, on pourra me ressortir l'enregistrement, dans quelques années, ce qui est mis en place par le gouvernement n'aura aucun effet.
L'hôpital de Bernay est-il en danger ?
L'hôpital de Bernay, c'est évidemment un sujet important, parce que quand on parle d'accès aux soins, eh bien l'hôpital est évidemment une structure indispensable pour des soins sur notre territoire. C'est aussi un employeur important pour Bernay. Quand j'étais maire, je me suis beaucoup mobilisé pour l'hôpital de Bernay. On a obtenu le scanner, on a obtenu la construction d'un nouveau bâtiment. Bref, on a obtenu beaucoup. Aujourd'hui, je suis toujours très attentif à ce qui se passe. J'ai eu l'occasion de rencontrer la directrice régionale de l'agence de santé pour lui dire toute l'importance de l'hôpital pour ce territoire. On attend incessamment sous peu, puisqu'elle m'a dit que ce serait pour début janvier des décisions. J'espère vraiment que l'hôpital de Bernay sera conforté.
Des choses qui vont bien dans votre ville, c'est toujours votre ville de Bernay. Le théâtre Piaf, le nouveau cinéma, la Wi-Fi qui marche un peu partout, les travaux en ville, il y a la survie du commerce, les nouveaux collèges du hameau, Marie Curie. Vous suivez ces grands dossiers, vous ?
Écoutez, je les suis maintenant.
Vous les avez même mis en route.
La plupart de ceux que vous avez cités ont été initiés sous ma mandature. Je ne les suis plus en tant qu'acteur, et c'est d'ailleurs des aspects un peu frustrants quand on n'est plus maire, mais je les suis à la fois en tant que citoyen et puis aussi en tant qu'élu, parce qu'il y en a un certain nombre que vous avez cités qui nécessitent bien sûr le soutien de la région, et c'est là où, en tant que conseiller régional, je continue à suivre de près un certain nombre de dossiers qui concernent la ville. On a organisé, il n'y a encore pas très longtemps, une réunion sur tous ces dossiers à la région avec le maire. Voilà, je suis, il le sait très bien, à la disposition du maire et de l'équipe municipale pour soutenir tous ces dossiers, aussi bien au niveau de la région qu'au niveau de l'État. Quand j'étais maire, j'ai pu obtenir une subvention tout à fait exceptionnelle pour le théâtre, puisque j'avais obtenu 350 000 euros du Premier ministre. Moi, je suis à la disposition de l'équipe municipale pour continuer à travailler en ce sens.
Vous avez appelé, lors de vos derniers vœux en tant que maire, à sa réhabilitation. Où en est le projet de la Gabelle ?
Écoutez, il faut demander ça au maire de Bernay.
Vous n'avez aucune indication sur...
Non, je n'ai pas d'informations sur l'avancement de ce dossier.
D'accord.
J'espère effectivement que ça fait partie des priorités de l'équipe municipale, parce que c'est un bâtiment absolument magnifique qui a besoin d'être déjà sauvegardé et dont je serais évidemment très heureux qu'il puisse être valorisé et qu'il puisse être utilisé. C'est un joyau qui a besoin aujourd'hui d'être de retrouver une nouvelle jeunesse.
Dernière question internationale. Laurent Fortin, c'est un sujet, un dossier que vous avez porté. On rappelle que c'est un chef pâtissier de l'heure qui est incarcéré en ce moment, donc à la place de son patron, dans une prison chinoise. On en est où de ce dossier ?
C'est un dossier sur lequel on n'a pas beaucoup d'informations. Je relance régulièrement le ministre des Affaires étrangères. En même temps, il faut être actif, mais relativement discret pour ne pas heurter les autorités chinoises. Donc voilà, on essaie de maintenir une amicale pression. Hervé Morin lui-même en a parlé lorsqu'il est allé en Chine il n'y a pas très longtemps. On renouvelle régulièrement notre souhait qu'il puisse recouvrer le plus rapidement possible la liberté.
Très bien. Monsieur Moret, on est arrivé au bout de cet entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que vous êtes sénateur du département de l'Eure. On espère en tout cas vous revoir très très bientôt sur notre antenne. Au revoir.
Au revoir.
Chaque dimanche à 18h, c'est l'Hebdo Politique.